Niveau, là, tout de suite.
Ouais, ouais. Mmh. Cabotant.
Frédéric Grenier, donc, tu es traducteur depuis quelques 25 ans, traducteur de polar, mais pas que, traducteur solitaire a priori, mais pas que, puisque tu es là pour nous parler de ta pratique de traducteur. Tes premiers livres, tu les as traduits avec tes yeux, avec tes oreilles. Quand on a eu l'occasion de bavarder, tu m'as dit, moi, mon rapport aux mots, pardon, je me reprends, mon rapport au monde, ça a toujours été les mots. Et puis, tu m'as dit aussi, je lis avec mes oreilles. Et je crois que maintenant, tu vas nous expliquer comment tu traduis avec tes oreilles.
Merci. Est-ce que c'est la bonne distance pour le micro? Non. Comme ça? Non, parce que moi je trouvais ça désagréable quand j'étais dans la salle d'entendre les poux. Comme ça.
Oui, mais toi, tu es très bien.
Comme ça, ça ira?
C'est parfait.
De toute façon, s'il faut rapprocher, vous me le dites. Avant de commencer, on m'a demandé d'annoncer le thème de la prochaine journée de printemps. Traduire à l'œil. Voilà, j'étais sûr de rencontrer un certain écho. Moi, quand j'entends traduire à l'oreille, j'imagine aussitôt la tête qui pivote pour tendre l'oreille. Et je dois dire que cette image me plaît assez. Le regard qui se détourne pour prendre le texte de biais, pour éviter le choc frontal. Une sorte de pas de côté. Et c'est dans cet esprit que j'ai conçu cette causerie. Voilà, je vous invite à faire un pas de côté avec moi, vers l'univers des oreilles. J'aime dire aujourd'hui que je lis avec les oreilles. Mais je n'ai pas toujours lu ainsi. Au cours de ma vie, les mots, j'ai goûté avec trois parties différentes de mon corps. D'abord avec les oreilles, ensuite avec les yeux, puis avec les doigts, avant de revenir aux oreilles. Donc au tout début, comme pour vous tous, j'imagine, les mots étaient ceux d'une voix. Dans mon cas, celle de ma mère ou de ma grand-mère. Les mots étaient donc portés par des sons, par la respiration d'un être vivant. Et pour moi, c'est vraiment en plus là que débutent les histoires. J'ai même envie de dire que, pour moi, très tôt, le monde n'est qu'une histoire qui demande à être racontée. Plus tard est venu l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Donc le langage est devenu visuel. Comme vous, j'ai lu ainsi environ jusqu'à l'âge de 30 ans. Beaucoup lu. Et il se trouve que, donc à l'âge de 6 ans, cet âge clé où on s'approprie le langage, j'ai quitté une petite ville de province française pour aller vivre aux États-Unis, à Washington, où j'ai vécu pendant 10 ans. En fait, tout ça pour dire que mon rapport à la langue anglaise doit beaucoup aux circonstances de cette rencontre avec l'univers anglo-saxon. Mais bon, je m'étais promis de ne pas m'égarer, essayez, je commence à m'égarer. Donc, j'en reviens à la lecture avec les yeux. L'ayant pratiqué pendant des années, je suis imprégné du dessin des lettres. Mon imaginaire a été façonné par l'écrit sous toutes ses formes. Et je connais le pouvoir hypnotique des mots imprimés. Je suis sensible, par exemple, au bruissement des feuilles. Je suis sensible à l'odeur d'un vieux livre de poche. Au ticket de métro laissé en marque-page par un lecteur précédent. aux annotations qui fonnaient dans la marge. Vers l'âge de 30 ans, la lente érosion de ma vue m'a contraint d'apprendre le braille. Quand j'ai appris à lire avec les doigts, j'ai eu la curieuse sensation de renouer avec l'écrit dans ce qu'il a de plus de matériel. Le geste de l'index qui parcourt la page pour déchiffrer les caractères braille, ou de la main munie d'un pinceau qui les imprime, m'évoquait le scribe avec son stylet, ou le moine copiste avec sa plume, ou encore l'ouvrier typographe disposant les caractères d'imprimerie. Et puis, quand je lisais en braille, j'avais vraiment l'impression de graver le texte dans mon corps. Quand je repense à ces trois façons que j'ai eues de lire, je n'y vois vraiment pas en fait des ruptures. J'ai plutôt l'impression de poursuivre un parcours de lecteur. Et donc ces changements, voulus ou non, enfin imposés ou non, je trouve qu'ils ont plutôt ils m'ont conforté, voilà. Ils ont enrichi mon regard de lecteur, plus qu'ils ne l'ont bouleversé. Si je prends par exemple le mot ciel, eh bien, que je l'imagine imprimé en caractère d'imprimerie, ou que je l'entende, ou que mon index le déchiffre en braille, ce sont les mêmes images, sonores ou visuelles, qui sont évoquées. Toutefois, quand on apprend le braille sur le tard, comme ce fut mon cas, la lecture reste lente, disons-le, besogneuse, et donc par la force des choses, très peu productive. Donc pour le travail, j'en suis revenu aux oreilles. Aujourd'hui, l'écrit, les mots, j'y accède par l'entremise d'une voix. Mais il y a voix et voix. Celle qui m'accompagne au quotidien, que j'utilise voilà, pour traduire, c'est une voix de synthèse, une voix artificielle. Pour que ce soit moins abstrait pour vous, on va vous la faire écouter.
Je suis capable de rendre l'honneur de lui consacrer une exposition jusqu'à millième, mais je veux dire que son odieux n'a pas suscité artistiquement un intérêt qui soit à la hauteur de son importance historique. En examinant les prix du média, IMDB ou Allociné le concernant, on ne retrouve qu'à Auguste que nous environ cette prime série, pour nous peu recommandable et où il occupe des rôles secondaires. Quand je sais là, son verre à l'orchestre apparaît dans une vingtaine de films. Marc-Antoine, son conjure.
Donc voilà, c'est avec cette voix que je lis le texte à traduire, que je relis ma traduction, que je consulte les dictionnaires, que j'effectue des recherches sur Internet, que je corresponds avec les auteurs. Au-delà de son inélégance, nasillarde et robotique, c'est une voix qui a le mérite d'être la plus neutre possible, ne m'imposer aucune musicalité et de ne lire le texte avec aucune intention. Donc son but se limite à me transmettre une information la plus proche possible de celle que je capterais avec mes yeux si je lisais avec les yeux. Toutefois, pour ce qui est de la lecture en général, la plupart du temps, j'écoute des livres lus par une voix humaine. À cela une seule raison, c'est le confort d'écoute est absolument incomparable, et donc c'est reposant pour mes oreilles. Mais par contre, là, du coup, je me retrouve face à une lecture à proprement parler. L'acteur apporte une musicalité, enfin une intention, des couleurs, il donne des voix aux personnages. Et j'ai beau, moi, rechercher, quand je lis ainsi, un rapport premier, enfin, pur, inaltéré au texte, je dois bien m'admettre que la voix humaine constitue toujours un écran, si fin et discret soit-il. Alors, malgré tout, mon oreille cherche à se comporter comme votre œil. Je suis attentif à la construction des phrases, au registre de langage, au lexique, etc. Je décortique, je pioche des idées, des tournures. Et je dois dire que la plupart du temps, mais peut-être vraiment quasiment tout le temps, quand je lis des livres ainsi, je n'y repère quasiment rien qui accroche mon oreille. Et donc ça pour dire que ces textes, la plupart du temps des romans, qui n'ont pas été écrits dans le but premier d'être lus à voix haute, passent très très bien l'épreuve de la mise en bouche. Et j'ai tout de suite envie de faire une conclusion très hâtive, c'est que quand il y a de l'écrit, si l'auteur sait ce qu'il fait, eh bien, il y a du phrasé, et il y a donc l'oreille. Je vais en revenir maintenant à la voix de synthèse, celle avec laquelle donc, je travaille. Et je vais tenter de vous écrire quel rapport j'entretiens avec cette voix. En quoi l'accès aux mots par cette voix diffère d'une lecture avec les yeux. J'ai horriblement soif. Donc je vais commencer par une évidence. Le texte m'est livré dépouillé de sa mise en forme. Moi, tous les mots m'arrivent sur un pied d'égalité. Vous oubliez la police, la casse, les gras, les italiques, les gros titres, la présentation par temps, etc. Alors, je simplifie un petit peu. Il existe la possibilité d'obtenir un certain nombre de renseignements sur la mise en forme qui me permettent de visualiser mentalement l'aspect du texte. Mais comment voulez-vous comparer cette perception intellectuelle, a posteriori, reconstruite intellectuellement, avec l'effet immédiat produit sur le lecteur voyant? S'agissant maintenant du fond, là où l'œil, lui, est capable, et je dirais même tenté, de survoler, de s'arracher à la lettre, à la syllabe, au mot, l'oreille, elle en est réduite à capter des sons qui lui arrivent dans un ordre et à un rythme auquel elle ne peut pas échapper. Avec l'oreille, nulle accélération, nulle fantaisie, nul balayage, nul ralentissement. J'ai envie de dire que l'oreille enchaîne au texte. L'oreille, elle, ne musarde pas. Si je m'échappe par la pensée, la seule solution, c'est de revenir en arrière de manière assez fastidieuse. Donc vous voyez, rien à voir avec l'agilité de la pupille. Le débit de la voix de synthèse est immuable. Là où l'œil, par exemple, peut glisser sur les dits-ils d'un dialogue, et donc par là même les atténuer, les estomper, l'oreille ne peut pas effectuer ce genre de réglage. D'où, sans doute, une certaine intransigeance, je pense, du lecteur à l'oreille. De la même façon, là où l'œil est reposé par la mise en page, par l'aération, l'oreille, elle, n'y a pas droit. Pour conclure sur ce chapitre, j'ai envie de dire que lire avec les oreilles, c'est s'interdire de survoler, de balayer, de lire en diagonale, de feuilleter. Donc voilà, en gros, quelques idées pour ce qui est de, pour ce qui est de la lecture. Je vais maintenant aborder d'autres questions qui touchent plus l'écriture, la rédaction à proprement parler. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment, sans l'agilité visuelle, susciter les associations d'idées. Comment arriver à recréer un cheminement de la pensée qui soit semblable à celui que suscite l'œil, par exemple, quand il balaye les entrées d'un dictionnaire. Alors, je vais être très franc avec vous. Ça fait près de 20 ans que je traduis avec les oreilles et je n'ai pas trouvé de solution pleinement satisfaisante. Je me débrouille très bien, mais par exemple, il m'arrive, quand je suis dans mon bureau, de jeter un regard très nostalgique vers les étagères où s'entassent les dictionnaires. Donc, moi, j'en suis... je suis obligé, en gros, si vous voulez, de mettre en place des stratégies de compensation. Vous en donnez plusieurs exemples. Je voulais ajouter une note, j'ai oublié juste une chose, c'est sur les dictionnaires, parce qu'après je vais donner l'impression que je fonctionne sans dictionnaire. Je ne fonctionne pas sans dictionnaire. J'ai bien entendu toute une série d'outils au format numérique. Quantité de dictionnaires au format numérique. Mais comment voulez-vous comparer leur consultation aux oreilles avec leur consultation à l'œil? Il n'y a pas du tout, si vous voulez, la même souplesse. Voilà. D'où un certain nombre de stratégies de compensation. Alors, quelques exemples. Après, je pense que ce ne sont que des choses que vous-même, enfin, vous pratiquez tous, mais moi, je suis obligé de les pratiquer encore plus, à un degré, si possible, supérieur. Par exemple, une attention mais permanente à tout ce qui est langage. Moi, mes antennes, elles doivent être tendues en permanence à l'affût de formules, de mots, d'expressions, et puis de toutes ces articulations qui permettent de construire une narration. Autre type de stratégie, il m'arrive assez souvent de lire le dictionnaire, mais uniquement dans un but d'y piocher tout ce qui pourrait m'être utile par la suite. Donc voilà, je vais lire le dictionnaire pendant une heure, balayer d'article en article, etc. Donc voilà, je constitue des glossaires, des lexiques au fil du temps. En gros, moi je n'ai pas l'agilité immédiate, mais j'essaie de mettre en place une agilité au long cours. Et pour y parvenir, un outil qui m'est vraiment très très précieux, c'est la mémoire. Moi je n'ai pas d'autre choix que de m'imprégner des phrases, que d'habiter le texte pour compenser l'incapacité d'aller venir d'un simple mouvement de pupille. Par exemple, au cours de la rédaction du premier G, j'ai en permanence des repentirs du type non, pas cette tournure, pas ce mot, pas cette construction. Tu viens de les employer, il y a un écran où il y a deux feuillets, cinq feuillets, parfois 10 feuillets. Ceci, bien sûr, sans avoir fait l'effort conscient de mémoriser le texte. C'est une mémorisation à mon insu, par imprégnation. Un deuxième exemple du rôle joué par la mémoire, qui m'arrive assez rarement, mais qui arrive malgré tout, et qui, moi, je trouve, donne une bonne idée de la façon dont le texte finit par agir de façon inconsciente. Il m'arrive d'avoir des espèces d'éclairs soudain, surgit je ne sais d'où, pour me souvenir que je n'ai pas traduit tel mot, tel bout de mot, parfois une phrase. Et alors, ça peut être il y a 10 feuillets, il y a 20 feuillets. Tout d'un coup, ça a travaillé dans mon inconscient et ça ressort. Pour terminer sur la mémoire, de manière plus générale, j'ai vraiment le sentiment que la mémoire fonctionne comme ce que j'ai envie d'appeler une oreille interne. La justesse du phrasé, vous savez, le fil de narration qu'on cherche tous à dévider. Alors, ça se construit, bien entendu, à la phrase, mais il arrive un moment où, pour moi en tout cas, l'écriture de l'auteur, elle s'est imprégnée en moi, et je ne vais pas dire qu'elle me dicte, hein, c'est tout sauf automatique, mais malgré tout, la fluidité, elle vient de là, et le respect de la pensée de l'auteur et du style de l'auteur, il vient de là. Il est pas. Il y a un moment où il cesse, pour moi en tout cas, il n'est pas conscientisé. J'en viens maintenant à une deuxième question. Comment traduire le visuel à l'oreille ? À voir. À voir. À voir.
Il n'y a pas de bulle. Il faut des bulles.
Donc, comment traduire le visuel à l'oreille ? Je porte en moi tout un passé visuel. 30 années d'images, de visages, de films, de paysages qui continuent de façonner de manière inconsciente, hein, ma vision du monde. Mais ce qui n'exclut pas pour autant un certain nombre de difficultés. Face à la description d'un tableau célèbre, ou d'une rue, ou d'une couleur, ou du visage d'une jeune actrice. Là, vous devez lire une actrice qui n'était pas vivante à l'époque où je voyais. Je n'ai pas... Si je veux comprendre les résonances qu'a cherché l'auteur, là je n'ai pas d'autre solution que de m'en remettre aux yeux de quelqu'un d'autre. Et puis, mes références visuelles, elles commencent à dater. Les images auxquelles je peux faire appel, elles datent de plus de 20 ans. Donc, pour moi, Sandrine Bonnaire n'a pas vieilli depuis Saint-Ouen-et-Loire. Et j'ai beaucoup de peine à concevoir l'horizon de New York sans les tours jumelles. De façon plus anecdotique, il m'est arrivé au moins une fois qu'un souvenir visuel me joue un tour à mon insu. Récemment, je reçois le texte d'une de mes traductions, soigneusement annoté au crayon papier par l'éditrice, et je m'aperçois, à ma grande honte, que j'ai écrit « Mente religieuse » M-E-N-T-H-E, sans doute influencé par un souvenir inconscient de la couleur de l'insecte.
Et la menton.
L'embarras passé, je dois quand même vous dire que j'aime bien d'imaginer que des forces subversives sont à l'œuvre de mon cerveau. Bon, cela dit, ce n'est sans doute pas un hasard si je ne traduis pas des manuels de décoration intérieure, des ouvrages sur la peinture ou le tatouage pour les nuls. Plus sérieusement, je me pose la question.
Très nul.
Peut-on traduire sans avoir vu ? Alors, je sais que notre époque ne doute de rien. Par exemple, c'est la grande mode que d'enseigner la photographie aux aveugles. Mais moi, permettez-moi d'avoir de sérieux doutes. Heureusement, tout n'est pas du ressort visuel. La langue américaine est souvent concrète. Le mouvement, l'action, la gestuelle, il occupe une grande place, a fortiori dans l'univers du polar, qui est mon univers. Et là, plus besoin de visualiser. Je me transforme en mime. Donc il faut m'imaginer, bondissant de mon fauteuil, prenant telle posture, mimant tel enchaînement. D'autrefois, j'avais essayé de me mettre dans la peau d'un personnage, où je vais essayer de me figurer par la pensée telle sensation, le toucher d'une étoffe, enfin. Je trouve que c'est, on n'est pas très très loin de ce que doit être le travail d'un acteur. J'en viens, si je n'ai pas oublié de passage, je reviens, je pense à la dernière question. Voilà, non, c'est ça, mais non, je me souviens là que j'en étais. Donc c'est bon, je n'ai pas perdu le fil. Voilà, la dernière question que je souhaite aborder, c'est l'oreille impose-t-elle d'éthiques qui lui sont propres, des maniérismes qui ne seraient pas présents si j'écrivais, enfin, si je traduisais avec les yeux. Existe-t-il la tentation de traduire davantage les sons que du sens? Et moi, j'ai envie de répondre oui, mais de façon marginale. Je sais, par exemple, qu'il peut m'arriver, rarement, bien entendu, mais ça m'arrive, d'opter pour un terme qui va introduire un léger glissement de sens, léger, hein, je dis bien léger, mais qui a la vertu soit de sonner mieux en français, mais surtout, souvent, qui permet de conserver un balancement ou une rythmique qui était présent dans la VO et que le terme plus proche en sens gommé. De la même façon, il m'arrive, lors de discussions avec des éditeurs, fréquemment là pour le coup, d'avancer l'argument de la sonorité, du rythme, de la cadence. Enfin, j'ai aussi conscience que je m'impose sans doute, alors de manière plus ou moins consciente, hein, un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'euphonie ou à l'homophonie. Mais j'ai du mal à croire que ce soit là une spécificité de Frédéric Reillet. Pour moi, si vous voulez, la phrase que l'on recherche, c'est quand même, enfin, c'est la phrase qui sonne bien en français, mais mm-hmm. qu'on traduise avec le nez, les yeux ou les oreilles.
Ou les pieds.
par exemple, avec les pieds, oui. Par exemple, quand je m'interdis de recourir au « il » impersonnel dans un passage où je dois beaucoup utiliser le « il » pronom personnel. Franchement, je n'ai pas envie d'en déduire que la juxtaposition des deux types de « il » choque davantage l'oreille que l'œil. Moi, j'ai envie plutôt de dire que c'est tout simplement là un parti pris littéraire, même si pour moi il passe par les oreilles. Mmh. Et il se trouve d'ailleurs que mon parcours de traducteur a en gros coïncidé avec cette acclimatation à un déchiffrage sonore du monde. Tant et si bien qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à démêler dans mon rapport au mot ce que je dois à mon regard de traducteur qui, depuis plus de 20 ans, m'enseigne à voir la langue d'une façon bien particulière et ce que je dois au fait que les mots, j'y accède par les oreilles. Cela dit, quand je peine à traduire fucking au plus juste, quand je cherche de la fluidité dans un dialogue, quand je peste contre la rigidité du français face à la plasticité de l'anglais, quand j'ai beaucoup de mal à capter au plus juste l'anglais tronqué d'un clochard esquimau. Je n'ai pas l'impression que ce sont là des histoires d'oui ou de vue. Au terme de cette exploration, non, j'ai vraiment l'impression que, davantage qu'un traducteur qui traduit à l'oreille, Je suis un traducteur de littérature populaire. Mon univers, c'est celui des polars américains. Donc, des livres pas toujours bien édités, d'une qualité d'écriture, disons, variable. Et avec les questions de traduction qui en découlent. Pardonnez-moi, mais je vais terminer sur une idée qui paraîtra sans doute un peu facile et un peu simpliste à certains d'entre vous, mais j'y crois tellement que je n'ai pas réussi à me raisonner et à ne pas l'évoquer. Voilà. À mon avis, comme pour beaucoup d'entre vous, la perte est au cœur de mon parcours de traducteur, de mon activité de traducteur. Formé sur le tas, à mes débuts, j'avais le désir inconscient de créer un français à l'image de l'anglais. Entreprise vouée à l'échec, bien entendu, et source de bien des migraines. Au fil du temps, à force de réfléchir sur mon travail, de discuter avec des éditeurs, depuis quelques années, grâce à toutes les discussions que j'ai pu avoir, soit par la TLF, soit par Atlas, j'ai appris, plus qu'à accepter cette perte, donc à l'accepter bien entendu, mais à dépasser ce côté de la perte de la langue d'origine, hein, et à me façonner donc ma propre posture de traducteur. Et comment voulez-vous que je ne fasse pas le parallèle avec la perte de la vue, un cheminement que j'ai effectué en parallèle? Merci.
Des questions pour Frédéric Grelier. Alors, oui, moi j'ai une question. Oui, le micro est là.
Moi j'ai déjà une question. La voix synthétique qu'on a entendue, quand tu bosses, tu l'écoutes à cette vitesse ou là c'était juste pour la démonstration?
Je l'écoute parfois plus vite. C'est une question d'acclimatation. Non, mais bien entendu que tout dépend comment je souhaite lire, ce que je souhaite lire, dans quel but je lis. Elle était un peu plus rapide, par exemple, que le débit auquel je vais lire la VO en anglais. Elle était plus rapide que la vitesse à laquelle je lis un dictionnaire. Sauf, bien entendu, si j'ai envie de lire la totalité de l'article du dictionnaire, je ne la lis pas à ce débit-là, un peu plus lentement. En revanche, quand je fais des recherches sur Internet, elle va aller beaucoup plus vite que ça. Mais c'est parce que c'est ce qui me permet, en fait, de gagner du temps et donc de me rapprocher du balayage. Enfin, c'est jamais du balayage, hein, mais quand même. Voilà.
Et tu ralentis quand tu identifies un mot qui correspond à ce que tu cherches?
Voilà, oui, bien sûr. Oui. Je m'arrête et je vais explorer. Donc, je vais rester à la vitesse. Tant que j'explore, je reste à cette vitesse rapide. Et après, si, une fois que j'ai repéré l'article que je veux lire ou le bouquin, etc., enfin, une fois qu'il est ouvert, là, je... Alors, pareil, non, au début, je vais balayer vite pour me faire une idée de l'architecture, de la présentation générale, et voilà. Mais après, quand je lis pour m'imprégner, que j'ai besoin de réfléchir à ce que je suis en train de lire, bien entendu que je ne peux pas le faire à cette vitesse-là.
Je vais profiter pour poser une petite question tant que j'ai le micro. Est-ce qu'à l'oreille, tu identifies aussi facilement les mots que tu ne comprends pas que... Parce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Est-ce que tu identifies facilement le mot ?
Identifie, c'est-à-dire le repérer ?
Ben moi, je sais que ça dépend des langues, mais l'anglais, quelquefois, à l'oreille, j'ai plus de mal à comprendre qu'à l'œil.
La qualité de la syntaxe. Pardon, excuse-moi. Non, termine.
Donc, est-ce que tu identifies les mots à l'oreille aussi vite qu'avant à l'œil ?
Je les identifie vite, mais en revanche, la plupart du temps, je suis obligé d'aller les plaire avant de pouvoir le rechercher dans un dictionnaire. C'est-à-dire que la synthèse, enfin la qualité, même si cette synthèse, enfin, déforme assez peu, en fait, hein, mais pour avoir l'orthographe du mot, la plupart du temps, je suis obligé d'aller les plaire. Mais juste pour la synthèse, je voudrais ajouter une chose. C'est vrai que c'est une synthèse particulièrement nasillarde, vraiment pas élégante. Il y a eu énormément de progrès ces dernières années. Il y a des voix beaucoup plus séduisantes à l'oreille, mais ce sont des voix qui prennent beaucoup plus de mémoire et donc sont beaucoup plus laborieuses à l'emploi. On peut pas aller vite, on peut pas passer de ligne en ligne très très vite, etc. Donc ça convient à une lecture lente. Voilà, pas une lecture de traducteur soumis à des deadlines. Voilà.
Oui, je voulais comprendre, tu travailles avec des logiciels. Après, toi, tu dictes ta traduction.
Non, je la tape.
Tu la tapes
au clavier.
Tu n'utilises pas, par exemple, des dispositifs tels que Dragon Naturally Speaking ou des choses comme ça.
Non.
Non. Tu le tapes.
Non,
mais alors, qui au départ fait le processus de prendre ton texte anglais pour que tu en aies la voix synthétisée ?
Non, en fait, c'est-à-dire que je pars d'un fichier informatique, soit un fichier PDF ou au format Word, et le logiciel, c'est le logiciel qui est installé sur l'ordinateur qui, lui, lit.
Mais c'est ça.
Lit le fichier.
Je voulais savoir.
Mais un fichier comme tout le monde, enfin comme vous.
Oui, d'accord, oui, mais je voulais, excuse-moi, je voulais être un petit peu technique parce que je me suis penchée à un moment de ma vie sur ce genre de questions. C'est un logiciel que tu as fait concevoir pour toi.
Non.
Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le commerce, etc.
Non, c'est quelque chose qui est dans le commerce, qui est fabriqué par une société américaine. Enfin, il y a un produit leader sur le marché. Enfin, il existe maintenant des produits concurrents en logiciel libre qui commencent à devenir très 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 opérationnels. Il y a même un système sur Apple. Donc, moi, c'est un système que j'utilise ne fonctionne que sur PC. Mais Apple, depuis plusieurs années, tous ceux qui ont là un appareil Apple, on peut le faire parler là tout de suite si vous voulez. Les iPhones, il y a une voix intégrée. Et pareil sur un ordinateur Apple, c'est intégré.
C'est-à-dire, en fait, quand toi tu traduis, que tu tapes, tu fais un petit peu, par exemple, ce que faisaient, on appelait ça sténotypiste avant, mais enfin peu importe, sténotypiste de conférence, c'est-à-dire tu écoutes et en même temps tu tapes.
C'est-à-dire, j'écoute le texte anglais ?
Oui.
Ah non, alors j'ai deux fichiers ouverts, j'ai le fichier du texte anglais, le fichier du texte français, et je vais et viens en permanence de l'un à l'autre, de l'un à l'autre.
Ok, merci.
Centaines de fois par jour. Au début, mais tout ça, ça a été, voilà, il a fallu s'y habituer. Au début, pour rien vous cacher, quand j'ai commencé donc à traduire avec les oreilles, au début, j'ai commencé en fait les trois premières traductions que j'ai effectuées après avoir perdu vraiment la vue, je les ai faites en braille en fait. J'avais complètement oublié ça, je m'en suis souvenu en préparant cette conférence. C'est-à-dire qu'au début, la première fois qu'on m'a fait entendre cette voix, j'ai dit, mais jamais je ne passerai mes journées avec cette voix. Mais comme toujours, voilà, dans la vie, vous voyez, c'est une question de... Il faut s'habituer, en fait. Et donc au début, quand j'ai repris la traduction, j'ai, avant, après, ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'avec le braille, c'est vraiment lent.
Donc, je veux dire, je traduisais un livre et demi par an. J'en ai fait deux ou trois comme ça. Et puis, je me suis mis à utiliser la voix de synthèse de manière périphérique. Pas pour le gros de mon activité, mais pour consulter des dictionnaires, pour gagner un peu de temps. Et puis, comme ça, c'est fait. Voilà, je m'y suis habitué par ce biais-là. Et donc, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'au début, donc pareil, au début, l'idée de basculer en permanence d'un fichier à l'autre, je me disais, enfin, j'ai déjà suffisamment de combinaisons à taper au clavier quotidiennement, parce qu'en fait, quand j'utilise le logiciel, moi, je passe mon temps à taper des combinaisons. C'est ça qui... Alors, je tape une combinaison pour ouvrir un menu, pour sélectionner telle partie du texte, pour le mettre en gras, etc., etc. Donc, je me disais, impossible d'envisager d'avoir ce basculement perpétuel entre les deux versions. Et donc, au début, je faisais lire mes textes anglais par une voix humaine. Ma femme qui est présente là m'en a lu un certain nombre. Et donc, ça avait le mérite qu'elle m'indiquait tout ce qui était la mise en forme, elle m'indiquait la ponctuation, etc. Et puis, un jour, j'ai eu à traduire un livre en urgence et il s'est trouvé qu'elle ne pouvait pas le lire. Donc à ce moment-là, ben, je l'ai scanné et j'ai mis en place donc l'idée des deux fichiers, le fichier anglais et le fichier français. Et je suis jamais revenu au système d'avant. En fait, ben, j'étais prêt à fonctionner de cette manière-là.
Oui, j'aurais une autre question. Vous parliez de perte tout à l'heure.
Oui.
Vous parliez aussi du ciel que vous voyez quand vous entendez le mot ciel.
Oui.
Est-ce que pendant ces 20 ans, vous avez dû faire des efforts pour garder toute l'intensité du ciel? Ou est-ce qu'il est toujours comme avant, dans toutes ces variétés, les variations, ces nuances?
Je me suis rendu compte, après avoir écrit le texte de la conférence, que ce n'était pas un bon exemple. Parce que c'est pas un bon exemple parce que je donne l'impression que visualiser est quelque chose qui m'est familier. En fait, non. Moi, j'ai. Alors, mais ça n'est que mon expérience. C'est pas du tout propre à tout l'univers des personnes qui perdent la vue ou qui sont aveugles de naissance. Moi, le rapport au monde que j'ai choisi, le visuel en a totalement disparu. C'est-à-dire que naturellement, si vous voulez, mon réflexe n'est pas de visualiser. Mais vraiment à un point. Donc, quand on me dit le mot ciel, j'ai plutôt tendance, moi c'est un mot maintenant. Voilà. Après, si j'ai besoin de le visualiser, je peux me rappeler des ciels de Floride, des ciels de Bretagne, etc. Hein. Des ciels orageux, je peux évoquer ça. Mais je n'ai pas besoin, voilà, dans mon rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, de passer par ça. Mais je sais, j'ai lu il y a peu de temps un bouquin d'Oliver Sacks dans lequel il évoque un certain nombre d'affections neurologiques autour des sens. Et notamment, il y a un chapitre qui m'a passionné, bien sûr, sur les aveugles. Et j'ai découvert à cette occasion, parce que je ne passe pas mon temps, moi, à lire des choses sur les aveugles, mais j'ai découvert... justement qu'il y avait toutes sortes de rapports au monde envisageables quand on n'avait plus la vue. Alors, c'est-à-dire, il parle d'un cas précis d'une personne qui, comme moi, ne passe plus par le visuel. Mais il cite un autre cas qui est fascinant, de quelqu'un qui perd la vue par accident à 20 ans et qui, jusqu'à sa mort à 85 ans, a vécu dans un univers où toutes les représentations étaient visuelles. Mais vraiment. Et ça me voilà, ça m'émerveille parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça.
Tout à l'heure, tu nous as dit un moment que sur une épreuve, j'imagine, on avait noté quelque chose au crayon à papier. Et de manière plus spécifique, comment ça se passe justement les épreuves, enfin, parce que autant c'est facile à comprendre d'avoir un fichier en PDF et une voix synthétique qui lit, autant comment tu arrives à savoir qu'il y a du crayon à papier qui est
Il y a mes yeux là qui sont dans la salle, c'est mon épouse. D'accord. Qui s'y colle. Okay. Voilà. Mais cela dit, au-delà du fait que je ne pourrais pas faire sans elle, je trouve ça mais tellement précieux, le regard d'un tiers, en fait, voilà, sur un texte. C'est diablement utile. J'ai beaucoup aimé quand Bernard, ce matin, a évoqué son épouse qui lui disait, parce que moi, au début, on procédait comme ça. Mais avant, ça prenait tellement de temps. On n'a pas pu continuer ainsi, mais moi, j'adorais cette phase-là. Et au début, donc, mais pareil, sans doute que j'avais besoin aussi de ça comme un apprentissage. Et donc, au début, je passais nécessairement par une mise en bouche, par la voix d'Armel, mon épouse, de toutes mes traductions. Alors là, il n'y a plus ça, enfin plus nécessairement, mais bon, cela dit, elle relit toutes mes traductions très soigneusement. Et très franchement, je ne pense pas que j'oserais rendre une traduction qui n'ait pas été vue par quelqu'un. Voilà, j'aurais beaucoup de mal à franchir ce pas-là.
Merci. Ma question se recoupe avec ce que tu viens de répondre. En fait, pour boucler la boucle avec ce que disait Bernard ce matin à propos du gueuloir ou de la lecture à voix interne dont parle Claro, avant de soumettre ton travail à Armel pour lecture, est-ce que tu utilises aussi la synthèse pour te relire toi-même avec le machin, là, Nazia?
Oui,
bien sûr. Ah ouais, d'accord. Bravo.
Oui, et j'arrive... J'arrive même dans cette lecture-là à sentir le rythme du récit, le fil de la pensée. J'arrive maintenant à le percevoir par ce biais-là.
D'accord.
Mais autrement, moi-même, je ne dis jamais à voix haute. Mmh. Ce serait une cacophonie avec si je devais me battre avec la synthèse pour l'espace sonore, mes oreilles ne s'y retrouveraient pas. Et non, mais donc moi, ce que je fais, c'est que je le dis, mais dans ma tête.
Mm-hmm. Frédéric, est-ce que pour la relecture, là, que tu profites, la relecture de ton propre texte, oui. Est-ce que les voix qui se sont, enfin, les logiciels qui se sont améliorés, pourraient, dans ce cas-là, parce que tu aurais besoin de moins de puissance, puisque tu n'as pas deux choses à faire en même temps, est-ce que tu pourrais utiliser des voix qui ont une reconnaissance syntaxique et sémantique? Est-ce que ça porterait un progrès pour toi?
J'ai envie de dire
que j'avais beaucoup de progrès depuis 20 ans et que moi, par exemple, je relis souvent, très très souvent à voix haute mes propres textes parce que je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça qu'entre la lecture silencieuse, la voix silencieuse, la voix sonore, pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Parce que souvent, je travaille aussi, moi, à la voix.
Non, moi, je suis habituée à cette voix maintenant et je n'ai pas besoin de... Non, d'autant que, bon, ça s'est amélioré, mais elles ont d'autres défauts. Les voix plus humaines. Et même, je veux dire, je disais que quand je lis des voix lues par des livres, lues par une voix humaine. Bon, il m'arrive malgré tout de lire des livres avec la voix de synthèse, hein, parce que tous les livres, bien entendu, n'existent pas au format livre lu. Et bien... Même quand je lis donc avec la voix de synthèse, je préfère nettement lire avec ma voix qu'avec une voix plus élégante. Je vais vous citer autre chose. Moi, je me suis toujours, justement, je me suis posé cette question longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je suis certain de pouvoir porter un regard littéraire, mais juste sur une œuvre, si je n'y ai accès que par cette voix de synthèse? Et j'ai eu la preuve, moi, l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai eu pour la première fois la chance de découvrir un auteur et de l'apporter à un éditeur. Et le premier éditeur à qui je l'ai apporté l'a pris. Et donc, pour moi, ça a été la preuve, voilà, parce que je n'avais accédé à ce livre que par cette horrible voix. Et j'y avais décidé plein de choses, mais après, où s'arrête mon imagination, ouais. Voilà, donc là, ça a été très important pour moi d'avoir cette preuve que j'ai été capable de, et dans mes discussions avec l'éditrice, voilà, toutes les qualités que j'avançais, voilà, étaient des qualités bien réelles. Donc, c'est, voilà, ça m'avait prouvé que j'arrivais réellement à porter un regard littéraire par le biais d'un outil, voilà, qui n'est pas follement esthétique.
Bernard, j'ai trouvé extraordinaire ce que tu viens de dire à l'instant, qui recoupe un peu ce que j'avais envie de dire, et qui est tout ce que tu nous as dit tout à l'heure. J'ai trouvé ce qui était extraordinaire, c'était comme tu nous as fait comprendre, tu m'as fait comprendre, ou que tu nous as fait comprendre, que, en fin de compte, moi, je m'imaginais, quand tu parlais, je m'imaginais moi en train de lire. En train de lire un nouveau livre, en train de lire un livre alors que je traduisais, en train de lire le web, toutes ces choses-là. Et tu m'as fait toucher dans un certain sens le fait que quand toi tu écoutes avec cette voix que je trouve horrible et incompréhensible, mais je comprends très bien qu'elle ne soit pas autant pour toi, qu'en fin de compte, ce que tu fais toi, c'est exactement ce que nous faisons nous. Et j'étais en train de parler, on a parlé du ciel tout à l'heure. Quand je lis le mot ciel dans un livre, je ne le visualise pas.
Voilà.
Quand je lis escalier, je n'ai pas d'escalier dans la tête. C'est exactement comme toi. Et c'est ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, quand on fait exactement la même chose avec des moyens complètement différents.
Ouais, ouais.
Et ça, je trouve ça magnifique.
Je voulais vous demander que devient la ponctuation dans cette lecture électronique, parce que quand on lit un livre à l'œil, la ponctuation c'est capital, les virgules, les points, tout ça. Qu'est-ce que ça devient dans cette lecture pour vous?
Elle est, alors, d'une part, elle est en partie marquée par la voix, et d'autre part, bon, ça j'y accède en allant dans le texte et en naviguant dans le texte. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vais traduire un passage, bon, ben je vais, bon, je lis une première fois le livre quand il m'est envoyé, enfin bon. Ensuite, en général, ce que je fais, c'est je relis chapitre par chapitre avant de traduire. Quand je vais traduire un passage, donc je vais lire par exemple telle phrase, je vais l'écouter une première fois, voir, repérer les mots qui me posent problème, etc. Et puis, à un moment, en tout cas, je suis obligé d'aller dans la phrase mot par mot, pour vérifier justement la ponctuation, les gras, les italiques, etc. Voilà. Donc je pourrais, si je voulais, indiquer à la synthèse qu'elle me lise la ponctuation. Mais alors là, vous imaginez ce que ça deviendrait horrible. Voilà, parce que ce serait en permanence, virgule, point de suspension, etc. Donc ça, maintenant, je... Là, je perds nettement en productivité puisque je suis obligé, voilà, par des commandes au clavier, de mot en mot, de faire du mot à mot.
Et moi, je suis assez d'accord avec Bernard. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est que je vois aucune différence avec ce qu'on ressent nous, enfin, les voisins.
Plus près du micro.
Pardon ?
Plus près du micro.
Divine.
Je ne vois pas tellement de différence. Je suis d'accord avec Bernard, c'est que. Des fois, vous ne traduisez pas, et puis vous avez dit, est-ce qu'on peut traduire sans visualiser? Mais ceux qui traduisent de la science-fiction, des trucs complètement.
Je ne pense pas que ce soit ça que j'ai dit. C'est sans avoir vu.
Sans avoir, oui, d'accord. Est-ce qu'un vrai amateur de la science peut traduire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut traduire des choses qu'on n'a pas vues.
Ah, mais je passe mon temps à traduire des choses que je n'ai pas vues.
Heureusement, c'est dans le polar.
Non, mais désolé, j'avais même pas perçu l'humour. Que je n'ai pas vu quand je voyais.
Microbes, virus et machin.
Non, mais oui, pardon, je n'ai pas.
Donc, moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est qu'on ne voit pas tellement de différence avec un traducteur voyant. Voilà.
Moi, vraiment, si. Enfin, la différence, c'est vraiment. Et c'est ce qui me manque le plus, hein. C'est tout ce que l'œil permet d'agitation, de mots, vraiment, enfin ça, c'est vraiment ce qui me manque le plus, je vous dis, vous pouvez, en l'espace d'un quart d'heure, vous allez pouvoir effectuer un chemin dans le langage que moi, j'ai beau vivre dedans tout le temps, j'ai beau essayer, je sais que je peux pas ça, ça ne m'est pas possible. Alors, ça ne veut pas dire que... Bon, après, il existe plusieurs chemins. Hein. Mais moi, là, ce chemin-là, pour le coup, il m'est vraiment interdit. Donc, bon, bah, voilà, enfin, voilà, c'est comme ça. Non, mais je peux écouter en buvant. Je suis polyvalent.
Oui, ça peut sembler périphérique, puisque vous disiez tout à l'heure par rapport à la photo pour les aveugles. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de passer quelques heures pour un portrait documentaire avec le photographe d'origine yougoslave, Evgen Bavchar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. qui est devenu aveugle en deux phases vers l'âge de 14 ans et 16 ans, si je ne m'abuse, donc encore adolescent. Et en fait, quand il parlait du ciel ou des choses comme ça, il faisait en fait tout à fait le même type de réflexion que vous. Et ça m'a juste interpellé, donc ça c'est peut-être une réflexion périphérique. Mais il a écrit un certain nombre de choses sur son appréhension, dans tous les sens du terme, de la photographie en tant que photographe aveugle. Et quelque part, ça se recouvre.
D'accord.
Oui, Christian Ferre. Je crois qu'un livre en braille, ça prend beaucoup de surface.
Ah, vous n'imaginez pas.
Oui. Est-ce qu'il existe des liseuses braille? C'est-à-dire dans la
surface,
avec une échelle de surface en trois dimensions qui se modifie au fil de la lecture.
Mais oui, ça existe tout à fait. En fait, on appelle ça une réglette. Enfin, et c'est en général, c'est un, ça se branche sur un ordinateur. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes, enfin les personnes qui continuent à travailler, qui travaillent au braille, ils n'utilisent pas la voix de synthèse. Mais le même logiciel que celui que j'utilise, en fait, les informations que moi, il me transmet par une voix, eh ben, à cette personne-là, il va les transmettre par du braille.
Et ça ne serait pas plus simple pour toi de travailler comme ça?
Ce serait, tu sais, déjà que j'ai peine à obtenir une augmentation de mes tarifs, et en plus tu me fais passer à une traduction par an, non, parce qu'en gros, ce serait, enfin, je mettrais beaucoup, beaucoup de temps, toi. Ce serait... beaucoup, beaucoup moins productif. Mais cela dit, c'est en train de cheminer en moi. Je pense que je vais venir à utiliser en fait les deux. C'est-à-dire, parce que je me rends bien compte que quand je suis en phase de troisième ou quatrième relecture, là, ce n'est plus une question de rapidité. C'est je vais m'arrêter sur un passage et j'ai besoin de réfléchir. Et donc, le temps que je perds à lire en braille, en fait, est moins significatif, je trouve. Mais juste pour dire, oui, non, les livres en braille, quand j'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu en braille au moment où je l'apprenais, parce que c'était la meilleure façon de l'apprendre, mais je me souviens, enfin, il y a une franchise postale, donc les facteurs, c'est livré gratuitement, mais par exemple, j'ai lu la Chartreuse de Parme. Alors, il faut savoir que le braille, ça prend tellement de place qu'on utilise assez fréquemment un système qu'on appelle le braille abrégé, parce que, enfin bon, vous voulez que je vous parle un petit peu du braille. Le braille, donc, je sais pas, vous devez vous représenter comment ça se fait à peu près. Il faut imaginer des petites cellules de 6 points présentées en deux colonnes de 3. Et à partir de ces 6 points, il y a 63 signes possibles. Et donc, quand on écrit en braille, il n'y a pas un signe qu'on rajoute pour les accents, par exemple. Le E accent circonflexe n'a rien à voir avec le A accent circonflexe. Ils ont chacun leur propre signe. Et du coup, on récupère certains signes qui sont d'un emploi peu courant pour écrire en abrégé, en braille dit abrégé, qui permet de gagner à peu près un tiers de place. Alors, vous, ça vous semble pas... Enfin, un tiers de place, ça ne vous parle pas, mais quand je vous aurais dit que la Chartreuse de Parme, par exemple... Quand le facteur me l'a apporté, imaginez donc quelque chose qui fait un format A4 et des volumes de 3 cm, format A4, et il y en avait 48.
Oh, mon Dieu.
Et ça, c'était la version donc en braille abrégée. On avait gagné un tiers de place.
Voilà, il m'aimait beaucoup en fait.
Oui, mais Christian, il parle d'un braille, un braille électrique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou est-ce que, d'un espèce de commun accord, il est temps de passer à autre chose que du Vittel?
Ouais. Là, je retrouve.
Peut-être que toi, tu voudrais nous dire quelque chose avant de clore.
Ah, bah, allez, d'accord, ok, si, si, allez, moi, je, allez. Avec ma candeur et ma naïveté habituelle. Non, je voulais juste dire, moi j'ai traduit donc pendant très longtemps, seul. Mais quand je dis seul, c'est totalement seul, dans mon coin. Et je n'avais pas idée qu'il existait, au-delà de mon antre, un monde de la traduction. Et il y a 3 ans, grâce à une éditrice et à une traductrice qui est dans la salle, j'ai découvert un jour ce bel univers de l'ATLS et de l'Atlas. Et depuis, c'est pas compliqué, j'ai assisté à toutes les journées de printemps, à toutes les assises. Et d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai écoutées à ces assises, à ces journées de printemps, tous les intervenants. Je trouve qu'on a une chance inouïe d'avoir ces outils et je ne pèse pas encore à quel point ça a changé ma pratique de traducteur, mais je sais que ça a changé la façon dont je suis traducteur et la façon dont je le serai à l'avenir. Et j'ai vraiment infiniment de reconnaissance pour cette communauté à laquelle je suis tellement fier d'appartenir. Merci.